Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi. Bonjour à toutes et à tous, c'est la fête foraine, c'est l'heure de Big Bang
Special.
Nous sommes sur les
98 de la bande FM, 98 FM.
En Ile-de-France à 21h sur IDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios le dimanche à 16h sur Precious Radio, le lundi à 19h sur Fréquence Magique, le mardi à 21h sur Radio EMS. Le jeudi à 16h sur Radio Vintage, à 18h sur Jupiter FM, le vendredi à 20h sur Onde Bleue, le samedi à 19h sur RLM en FM à Bastia et sa région, et à 20h sur Radio Saint-Dié, sur Gimme Radio, et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang
Station.
Big Bang Station, c'est un thème d'actualité auquel les chroniqueurs politiques, musique, cinéma, culture, sorties high-tech, histoire, coup de cœur, collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de parcs d'attractions. Petit Manu nous racontera l'histoire des parcs de loisirs. Bonsoir.
Bonsoir, mon cher Didier. Bonjour à vous tous. Effectivement, il faut savoir toute l'histoire, la story des parcs. Il y a pas mal de choses à dire. Et ben, je vous le dirai avec le plus grand plaisir, mon cher Didier. Sachez. Sachez-le en faisant des bons heureux.
Je ne connaissais pas cette
expression. Eh ben tu vois,
Solène est allée interroger les Français. Aiment-ils toujours autant les parcs d'attractions? Réponse dans son micro-trottoir. Et c'est les 30 ans de Disneyland Paris. À cette occasion, Marie-Ève a reçu le courrier d'un certain Mickey M.
Mickey M m'a écrit. Et ouais.
C'est pas vrai.
Mais tu sais que je reçois beaucoup de courriers, beaucoup de mails.
Tu es très demandé. Et tu dois avoir un choix limité, j'imagine.
Oui, bien sûr, petit Manu. J'ai peine à sortir de chez moi. Il y a des fans qui m'attendent constamment au pied de mon appart.
Et je suppose que tu dois signer des autographes.
Comme petit Manu. Ah non, c'est pas des fans, c'est la police.
Oh non, pas du tout. Non. Je préfère les fans. Mais c'est bien. Tu viens de donner à cœur joie.
Et en 30 ans, les choses ont bien évolué, les nouvelles technologies sont arrivées, dont la réalité virtuelle, hein, n'est-ce pas William ?
Bonsoir Didier et bonsoir tout le monde. Cette semaine, je vous parlerai d'une technologie révolutionnaire pour les parcs d'attractions et il s'agit de la réalité virtuelle. Pour cela, je présenterai des lieux qui l'utilisent. On verra qu'elle peut apporter une expérience inédite et bien meilleure.
Et en 30 ans, ces parcs ont rapporté des milliards d'euros. Ronan va nous faire le point sur le poids des parcs de loisirs en France.
Tout à fait Didier, bonsoir à toutes et à tous. Le poids économique des parcs d'attractions est très important dans un pays comme la France où le tourisme est lui-même primordial. Alors, quel est le poids économique de ces parcs d'attractions dans notre économie? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure.
Que seraient les parcs d'attractions sans musique? Beaucoup de chanteurs s'en sont inspiré, Kevin.
Alors oui, effectivement, il y a des chanteurs qui ont interprété des chansons pour rendre hommage au parc d'attractions et notamment à Disneyland et Astérix.
D'autres artistes se sont inspirés des parcs à thème et plus particulièrement de Disney avec ses personnages. Wins Dollar nous présentera un peintre américain qui met en scène Mickey, notamment dans ses sublimes tableaux.
Eh ben, ça demande à savoir et de la réflexion, mon cher Didier.
Et on continuera à parler de Disney avec notre chroniqueuse cinéma, Nathalie. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Oui, en effet, l'acquisition de Pixar Animation Studios par Walt Disney Company en 2006 a suscité de nombreux débats, mais vous verrez que cette opération était nécessaire pour la survie de Disney.
Et on terminera cette émission par un parc à thème particulier sur la guerre de sécession, et c'est Vincent qui nous en parlera. Et l'émission est réalisée par Lio.
Yo,
et il est beau. Ah, tu l'as pas dit.
Vas-y, les filles.
Bah oui,
Lio.
Bah alors, petit Manu.
Bah non, vas-y, Marie-Ève. Il est beau.
Petit Manu dit Lio, il est à la banana.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai, pas de les filles, 1, 2, 3, Lio et.
Lio, bah t'es beau, hein.
Il est beau. Tu vois,
il a des beaux pectoraux.
Et il est chaud.
Voilà. Tu vois, maintenant, j'ai mes fans qui te font des compliments, mon cher Lio.
Sentez tout ça, Lio, je suis désolée.
Ah bah non, merci.
Et ça marche quand t'es là.
Je crois que c'est le célibat.
Voilà. Ah, ça, je ne sais pas. Il y a avec toi que ça marche.
Et petit Manu, qu'est-ce qu'il rime en U?
Non, 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 non. On fait les compliments pour Yo. Voilà, bon, non.
Petit Manu, il a un bon.
Non, non, non. Je trouve pas. Non, non. Hey, Yo, ça marche qu'avec toi.
Les parcs de loisirs et à thème sont le plus implantés dans les pays occidentaux. Disneyland Paris est le premier parc européen et le leader mondial, c'est aussi Walt Disney.
Exactement.
Hein. La France est championne d'Europe en la matière, plus de 30 millions de visiteurs par an, hors période de Covid. Hein. C'est un chiffre de l'écho touristique. Mais d'où vient le tout premier parc d'attractions au monde? Petit Manu nous retrace l'histoire des parcs de loisirs.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama.
Donald Trump. Hillary Clinton.
David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux. Non.
Tous les quoi?
Alors cette émission, en France, le premier parc d'attractions est la Foire du Trône, qui a commencé en, fallait savoir, en 957. Plus spécifiquement, le premier parc de loisirs au monde a été créé par Robert de Artois en France et à la fin du 8e siècle. On continue.
Attends, 8e.
Non, 13e. Du 13e siècle. Oh là là là, 13e siècle. Ces caractéristiques sont très proches de celles des parcs actuels. Châteaux tournants, ponts qui s'effondrent, jardins paysagers.
C'était peut-être pas fait exprès à l'époque, les ponts qui s'effondrent.
Ah oui, mais parce qu'ils n'étaient pas solides, effectivement, Didier.
Sur le pont, tout ça. Non, bravo!
Non, mais c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas tout le progrès d'aujourd'hui. T'as raison. Très fin, notre cher Didier. Oh là là, raffiné. Les ponts, il n'y avait peut-être pas la solidité. Les ponts qui s'effondrent, les jardins paysagers, les animaux, etc. C'est vrai qu'il y avait moins de progrès qu'à la vie d'aujourd'hui. Il faut le dire, mon cher Didier. Oh là là, très fin, etc. Il est démoli à la fin du 14e siècle. Il avait aussi le
16e.
16e siècle. Décidément, 16e siècle.
Oh, on n'est pas de siècle.
Voilà. Oh non.
Voilà, on se complète. Voilà, 16e siècle. Il avait aussi le château de Versailles, qui était rempli de labyrinthes, de balançoires, à l'époque où étaient considérés comme des attractions sensations. Puis il y avait aussi Molière qui jouait, les premières pièces de théâtre, Jean-Baptiste Ploquin, faut le savoir.
Le même nom de famille que toi.
Ah non, bah, c'est Ploquin.
Ploquin, presque.
Et Ploquin, voilà, voilà.
Donc t'es pas de sa famille.
Non, 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 pas du tout.
Pas du tout.
Et aussi, une ancienne de Canal Plus, Isabelle Quin, c'est Quin. On enlève Plo. Voilà, voilà.
On enlève le Plo. D'accord.
Non, voilà, Quin, c'est son nom de famille.
Mais vous faites partie de la même famille?
Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est des noms. Voilà. Je précise, ma chère Marielle. Voilà. Oh, qu'est extraordinaire.
C'est bien, à chaque fois que je sors d'ici, j'ai un ego boost.
Mais non, mais elle ne sera pas cautionnée. Bah, c'est important. Alors, on continue. Les premières montagnes russes sont à Paris. Sont apparues pour la première fois en Russie au 16e siècle. Les fondations étaient en bois et une fine couche de glace recouvrait la surface. La porte était inclinée de 50 degrés, tout à fait, 50 degrés. Tout ceci est à bord de sièges et en osier, faut savoir. Puis au Royaume-Uni, en 1543, les foires ont évolué en tant que lieu d'amusement avec des loisirs, des aliments, des jeux et des attractions, mettant notamment en scène des spectacles, des monstres. Alors là, aux États-Unis, alors là, il ne faut pas comme les autres, les foires de comité et l'État
également.
Du comté. Et l'État ont également joué un rôle dans l'histoire des parcs d'attractions. Ce sont des manifestations annuelles qui tenaient habituellement pendant une courte durée, une semaine ou deux, pour célébrer une bonne récolte. Parce que c'est comme un grand, faut savoir. Ces foires présentaient des expositions de bétail, des concours de cuisson et de cuisine, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien manger, ils ne font pas comme les autres pays. Le plus vieux parc d'attractions attaque et encore en activité, il faut savoir, c'est dans le monde, ce qui est ouvert en 1583. Alors ça, je vais essayer de bien le dire parce que c'est...
Il est à Copenhague,
voilà,
au Danemark.
Voilà, à Benka, à Copenhague et en Danemark. T'as très bien dit, vas-y Didier, parce qu'il est très...
Non, fort. Il est au Danemark.
Voilà, en Danemark, Copenhague. Voilà, je ne dis pas aussi bien que Didier, oh là là. Puis, il y a aussi des parcs à thème, où on parle souvent de Disneyland, ouvert en Californie en 1955. Et comme était le premier, mais à Tivoli Garden qui fut ouvert en Danemark en 1843.
Non, on considère que le premier parc à thème était Disneyland Paris. Voilà. Pourtant, il y a eu Tivoli Garden au Danemark en 1843, qui est normalement le premier parc à thème.
Voilà, le premier parc à thème, il faut savoir, dans les milieux modernes.
Et qui est sublime, j'y suis allée. Bon, pas du tout le même style qu'Euro Disney, mais qui est énorme et qui est vraiment féerique. Ouais, c'est très très gros.
Est-ce que tu as passé un bon moment? Tu as gardé un bon. Tu t'es bien éclaté.
Ça fait un moment, mais j'y suis allée. Ouais, j'avais 20 ans, une vingtaine d'années.
Il y a 2 ans déjà.
Ah bon? Oh, bah, il y a 20 ans. On ne demande pas d'un demoiselle. Donc c'est ça vaut le coup. Tu conseilles de y aller, quoi.
Ouais, tout à fait.
Bon, bah allez-y, allez-y.
Et chez Petit Manu, il y a aussi un parc d'attractions, c'est le labyrinthe de chaussettes sales.
Oh non, 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 non.
Très difficile à traverser.
Par contre, il y est au Disneyland, on peut y aller.
Disneyland Paris.
Disneyland Paris. Par contre, les hôtels, c'est très cher. Hein. Pour payer, ça coûte assez cher, mais ça vaut tellement. Et ça, faut savoir que faut faire des petites économies. Des fois, s'il y a des familles qui peuvent y aller, si vous voulez dormir, hein, c'est pas donné. Mais vous allez passer un bon moment, évidemment. Je vous conseille d'y aller, évidemment.
Merci, Petit Manu.
Je t'en prie, cher Didier.
Et on l'a entendu, un Petit Manu, une histoire bien française. Il existe plus de 250 parcs de loisirs en France. Parc Astérix, Puy du Fou, Futuroscope, voilà. Quoi d'autre?
On a dit Astérix. Ah, comment ça s'appelle?
Il y a Walibi aussi.
Ah, Walibi. Oui, aussi dans le Val d'Oise, aussi un parc aussi.
Tu sais le truc médiéval?
Oui.
Hyper. Le Puy du Fou.
Le Puy du Fou, tout à fait.
Je l'ai dit.
Exactement.
Il y a le parc Saint-Paul.
Saint-Paul aussi. Aussi dans le Val d'Oise aussi, il y a un grand parc aussi.
Chez Petit Manu.
Hein?
Oui, chez Petit Manu.
Non, mais il y a
l'entrée est gratuite.
Non, non. Il y a beaucoup de parcs.
La sortie est payante.
Dis-moi, Léo.
Vous voulez sortir ou il va falloir payer?
Ça s'est bien passé. Ton travail, ça va? Parce que je ne parle pas de chez moi.
On parle de chez soi.
Non, mais je m'attends à lui, longtemps que je ne t'ai pas vu.
Il est en train de bosser, là.
Voilà.
Il existe plus de 250 parcs de loisirs. Donc, les Français aiment-ils toujours autant les parcs d'attractions? Solène est allée vous poser la question. Connaissez-vous bien le thème de cette émission?
Je suis allée interviewer des personnes dans la rue pour avoir leur avis.
La réponse dans le...
micro-crotte.
Non, micro-trotte.
Ah, micro-trotte.
Trotte.
Trotte. Ah ouais, c'est pour ça que...
D'accord. Trottoir.
Trottoir, oui.
De Solène.
Je recommence. Oh là là.
Hello Mi Monk Station! Avec les 30 ans de Disney, c'est l'occasion de parler des parcs d'attractions qui sont souvent appréciés du grand public. J'ai fait votre rencontre cette semaine pour parler avec vous de ces activités familiales ou amicales. Mais est-ce que vous aimez vraiment ça? Donc, déjà bonjour!
Bonjour!
Qu'est-ce que vous pensez des parcs d'attractions?
Bah, c'est une bonne chose, ça c'est bien. C'est très bien.
Bonjour, c'est une bonne chose pour les enfants. Ça fait plaisir à tout le monde, même enfants et adultes.
D'accord. Je pense que c'est une bonne sortie pour s'amuser en famille. Ça dépend pour quel type de loisirs on recherche. Moi, personnellement, je préfère y aller avec mes amis, ma famille. Je trouve que heureusement qu'on a ça, parce que sinon, on ne saurait pas comment se divertir. Mm-hmm. Puis, il y a tellement d'univers différents en fonction des parcs de loisirs qu'on a un choix assez large en France sur les parcs de loisirs.
D'accord.
La réponse est unanime. Vous adorez tous les parcs d'attractions, avec les manèges, la convivialité, ainsi que tous les souvenirs que ça vous crée. J'ai donc essayé de creuser cette question en vous demandant si vous alliez beaucoup passer de moments au sein de ces manèges.
Quand je peux, oui, mais là, avec le confinement, tout ça, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été.
Et mais quoi dans les parcs d'attractions?
Les attractions, en soi, c'est bien, j'aime bien. Surtout Disney, on retourne en enfance, tout ça, j'aime beaucoup. Là, j'ai envie de le faire découvrir à ma fille, mais faut attendre encore un petit peu. Là, elle va avoir 4 ans, donc je pense que là, c'est le bon âge pour y aller. Avant, ça sert à rien, je pense.
Moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, parce que mon fils, il est grand maintenant, mais c'est vrai que les parcs d'attractions, moi, j'aime bien aussi. Hein. C'est vrai que y a du monde, on voit des gens. C'est très bien, oui.
Pas régulièrement, mais une fois de temps en temps, oui.
Est-ce que vous trouvez que le prix, le monde qu'il y a, etc., c'est un frein pour y aller?
Un peu quand même, ouais. Ça, les prix ont beaucoup augmenté et puis c'est vrai qu'on fait beaucoup d'attentes, mais bon, ça reste quand même quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Je trouve que c'est bien à faire quand même.
Ah oui.
Est-ce que vous trouvez que, par exemple, le prix, le monde, tout ça, est-ce que c'est un frein pour y aller ou pas?
Ça dépend où on va, effectivement. C'est vrai que ça coûte cher quand même. Quand on regarde bien les prix, c'est un coût quand même, c'est vrai. Si on y va à 3-4, tout de suite ça chiffre, effectivement, c'est vrai.
On y va que avec les enfants ou on peut y aller entre amis?
Oh, avec les enfants, entre amis, plus on est, plus on rigole en fait, c'est vrai. Hein.
Et vous pensez y retourner un jour ou pas?
Oh oui, tout à fait. Ouais.
J'ai aussi fait une rencontre assez spéciale avec Océane qui a elle-même travaillé au sein d'un grand parc d'attractions. Elle nous raconte les coulisses de ce qu'elle a vécu.
Juste avant, vous m'avez dit que vous avez travaillé dans un parc d'attractions.
Oui, c'était, tout à fait.
C'est quoi l'envers du décor du coup ?
L'envers du décor, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, à découvrir. C'est très très grand et... Sans avoir travaillé dans un parc d'attractions, on ne peut pas s'imaginer tout le monde qu'il y a derrière tout ça. C'est carrément une ville. J'ai travaillé à Disneyland Paris et c'est vrai que bah, derrière Disney, derrière tout ce bel univers de princesses, les fées, etc., de magie et tout, il y a énormément de vie derrière tout ça. Il y a Cast Memberland, donc c'est seulement pour les employés et il y a vraiment tout, de quoi se restaurer, de quoi se changer. On se balade en bus dans cet endroit-là parce que c'est tellement grand qu'à pied, il y a des kilomètres à parcourir.
Pour terminer ce micro-trottoir, il faut comprendre que d'abord, les parcs d'attractions sont intemporels et sont appréciés par une grande majorité de la population puisqu'ils sont l'occasion de sortir de son quotidien. De plus, tous les parcs d'attractions ont des thèmes différents, ce qui nous permet de changer de parc régulièrement ou nous donne juste envie de voyager. Enfin, je vous propose avec les beaux jours d'aller faire un tour dans des parcs d'attractions, pas forcément très loin de chez vous, histoire de vous changer les idées et de vous faire rêver un peu.
Merci Solène. Et c'est les 30 ans de Disneyland Paris. Un certain Mickey M nous a envoyé un mail à ce sujet. Et c'est Marie-Ève qui est chargée de répondre au courrier ou au mail des lecteurs. Je vais la laisser répondre. Chaque semaine, découvrez le courrier des auditeurs.
Un premier mail de Leonardo D. Oh mais Leonardo, c'est trop mignon ça.
Retrouvez la minute timbrée de Marie-Ève.
Suite à votre dernière commande, profitez de -20% sur passagedudésir.com. Ah oui, ça c'est petit Manu qui m'avait demandé de commander un truc pour une amie.
Non. Marie-Ève.
Oui, et bienvenue au courrier des...
The Dogger !
C'est encore un anniversaire cette semaine, et pas des moindres, puisque c'est celui, comme on le disait, de Disneyland Paris. Et c'est Mickey M qui m'a écrit aujourd'hui. Oui, incroyable, mais vrai.
T'as de la chance.
Hello Marie-Ève, connais-tu le plus bel endroit du monde, le paradis des enfants, Disneyland Paris ? Hey Mickey, mais enfin, bien sûr que je connais Disneyland Paris. Pour l'ouverture, j'avais 4 ans, je regardais la pub à la télé et mes yeux brillaient de mille feux. La fée Clochette posait sa baguette magique sur le haut du château. Je me voyais déjà dans les bras de Minnie en train de faire copine. Sauf que j'y suis allée pour la première fois à 30 ans, quand je suis devenue comédienne. Bah oui, le premier rôle de ma vie, c'était Daffy Duck. Et crois-moi que quand tu passes de l'autre côté, c'est pas la même chose. D'un pouvoir d'attraction, c'était la première fois que ça m'arrivait. On ne m'a jamais fait autant de déclats de ma vie. Les enfants se ruent sur toi. En fait, ils croient que t'es un punching ball.
Ah bon ?
Ils se battent pour te toucher, ils te grimpent dessus, ils te hurlent dessus pour prendre une photo avec toi. Bref.
T'es sûr que c'était pas petit Manu plutôt ?
Non, ah non, ah non. On se connaissait pas. Eh Guillaume, on se connaissait pas encore.
Parce qu'il a la même taille à peu près.
Non.
Il fait à peu près la même chose.
Non, pas du tout. Mais
non, là, c'est maintenant, petit Manu, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, je suis pas sûre.
Mais non, mais elle se rappelle un souvenir, un flashback, mon cher Guillaume.
Oui, mais j'ai bien compris.
On se connaissait pas, non, t'inquiète pas. Vous la laissez raconter, narrer.
Bien sûr.
Reprends, ma chère.
Bref, en gros, Didier, petit Manu, les amis, j'étais la Madonna des couches culottes. Face à ce harcèlement, je me suis dit que ce serait bien de changer. J'ai donc accepté un second rôle, le second rôle de ma vie, celui de Mélanie Ravenswood dans Le Manoir Hanté.
Ah.
C'est la fille du patriarche du manoir qui, à 150 ans, a été courtisée par 4 prétendants qui se sont fait buter par son père, qui estimait qu'aucun d'entre eux n'était assez bien pour elle. Donc non seulement je me suis retrouvée à jouer le fantôme d'une femme désespérée en robe de mariée qui attend qu'un homme vienne la sauver... Et ça, c'est pas très féministe. Mais en plus, je me suis prise des coups de poing dans le ventre et je me suis fait ploter les seins.
Ah bon ?
Disneyland, le monde des bisounours et de la féerie. Mais faites-moi rire ! C'est plus dangereux que les cités du quartier nord.
Vraiment à bon souvenir.
Non, vite fait. Et tout ça pour avoir mon statut d'intermittente du spectacle. Dans la même veine, j'ai aussi fait les goûters d'anniversaire.
Ah oui.
Ah, les goûters d'anniversaire. Les enfants... Toujours les enfants. C'est la race la plus cruelle qui soit. Je veux un jus de pomme, tu me l'apportes, vieille sorcière. quand tu leur fais des tours de magie, ils te crachent à la gueule en te disant que t'es même pas une vraie magicienne. Une fois, le goûter d'anniversaire s'est transformé en...
Tu le vois celle-là?
Ouais, grave.
Tu vois?
Tant là. Pis, quoi.
Mais tu veux voir ton petit miage de...
Eh ben, non. Tu la vois plus.
Eh ben, tu la vois plus. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas un réanimateur? L'enfant est KO. Non, non, je sais garder mon calme. 10 ans de thérapie. Bref, une fois le goûter d'anniversaire s'est transformé en règlement de compte entre Stella et Sophia, qui ne voulaient plus être meilleures amies. Stella essayait de tabasser Sophia avec le bâton de piñata. En fait, c'est Fight Club pour les 3 à 6 ans. Et tout ça pour 40 euros sur mon compte en banque et seulement un demi-cachet. Un demi-cachet. Ça existe, ça? Mais est-ce que c'est légal? Une presta qui te nique tout ton dimanche après mais qui te rend sourde, c'est autorisé, ça? Mais j'ai véritablement compris qu'il fallait que j'arrête de faire des goûters d'anniversaire quand j'ai dû aller chercher mon costume de Falbala au point relais. J'arrive au point relais. C'est fermé le lundi. C'est pas grave, j'y retourne le lendemain. Il y a eu un changement de point de livraison. On sait pas pourquoi. Je marche une demi-heure pour aller à l'autre point de livraison. Le mec a mis la clé sous la porte. Sur la devanture, un panneau qui dit « Pour tout colis envoyé dans ce point relais, merci d'aller le récupérer à la poste. » La poste ? La poste ? Le seul endroit où tu fais plus la queue que chez Pôle emploi ? C'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête.
Ah ouais, c'était pas ton truc, c'était un fiasco total, quoi.
Allez, vive la vie de comédienne, les amis. Maintenant, j'ai qu'une seule peur, c'est que mes futurs enfants me réclament une journée à Disneyland quand ils auront 6 ou 7 ans. Mais moi, je ne veux jamais retourner à Disneyland. Jamais. Donc je me dis qu'au pire, je demanderai à leur père de les accompagner, si on n'a pas divorcé d'ici là. Allez, pour la prochaine émission, envoyez-moi tous vos mails à marielassainte-evelapecheresse@gmail.com. Bisous.
Bisous. Tiens, ça me rappelle, j'étais au moins une fois heureuse du Disneyland, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'aimais bien Space Mountain. Et quand je suis revenue,
Space Mountain.
Space Mountain, c'est dans les manettes.
Space Maker Mountain.
J'avais pas compris ça.
Space Mountain, je peux te dire. Non, je peux te dire, Didier, et quand je suis revenue dans les transports en commun, dans le train, ça a bougé comme ça parce que ça va à toute vitesse. Moi j'avais des sensations et j'en garde un beau souvenir. Allez à Space Mountain. Tu me dis, mais les sensations fortes.
Merci Marie-Ève. 30 ans déjà, que d'anniversaire en ce moment, hein, tu l'as dit, avec les 25 ans de Big Bang.
Station.
Les parcs ont dû bien évoluer, hein, en 3 décennies, de plus en plus de technologies s'implantent dans les parcs de loisirs, dont la réalité virtuelle. En 2008 déjà, le Futuroscope tentait l'expérience de la réalité virtuelle. William fait le point pour nous. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli, objet connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours ?
On commence avec un précurseur sur le sujet, le Futuroscope. Il a introduit la réalité virtuelle pour la première fois en 2008, mais malheureusement, ce fut un échec. La raison est que cette technologie n'était pas connue comme aujourd'hui. Cependant, le Futuroscope a retenté l'expérience en 2018, soit 10 ans plus tard, avec l'attraction qui se nomme Sébastien Loeb Racing Experience. Dans celui-ci, le visiteur se trouve dans un bolide piloté par le pilote de rallye. Il est équipé pour cela d'un casque de réalité virtuelle et est confortablement installé dans un simulateur dernière génération. Durant toute l'expérience, vous devez faire face à de nombreux événements qui s'enchaînent à un rythme d'enfer en tant que son copilote. Comme nous fêtons les 30 ans de Disneyland de Paris, saviez-vous qu'il a lui-même fait appel à la réalité virtuelle? Pour ce faire, il a proposé à ses visiteurs une animation gratuite qui les plonge immédiatement dans le monde de Disney avec des missions et une immersion bluffante. Le Disneyland de Floride a lui aussi utilisé cette technologie pour proposer une expérience inédite dans le monde de Star Wars. On termine la présentation des lieux avec Illucity. C'est le premier parc d'attractions en réalité virtuelle. Il transcende le jeu et conçoit cette technologie comme une expérience unique, accessible et collective, le tout avec un scénario attractif. Chez Illucity, l'aventure commence dès l'entrée avec une haie d'honneur de nains de jardin coiffés de casques de réalité virtuelle. Parmi les expériences qu'on peut trouver, il y a celle nommée la glisse infruini qui est accessible par l'achat d'une canette Oasis. Pour conclure, je tiens à dire que la réalité virtuelle permet au parc d'attractions d'offrir une expérience plus immersive et plus sensationnelle. Toutefois, c'est à utiliser avec modération au risque de finir dans une situation inconfortable comme des nausées ou des migraines. C'est pour cette raison qu'elle est déconseillée aux femmes enceintes. C'est tout pour moi, amusez-vous bien avec Mickey et je rends le micro.
Merci William. La France, on l'a dit, est la première destination européenne pour les parcs de loisirs. Malgré la concurrence de l'Allemagne et de l'Espagne, les parcs de loisirs français ont un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros et emploient plus de 40 000 salariés, dont Marie-Ève, il y a quelques temps. Sur environ 600 sites, Ronan décrypte le poids économique des parcs de loisirs français.
Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est la chronique politique de Ronan.
Au revoir.
Ah, dans cette chronique politique, pour une fois, on va faire de l'économie. Déjà parce que l'économie, c'est ce qui régit nos vies, notre capacité de travail, notre patrimoine, ce que nous pouvons échanger sur le marché économique, un service contre un autre, etc. Alors là, on va parler de parcs d'attractions, car il ne faut pas croire, les parcs d'attractions représentent une économie assez conséquente sur le marché du tourisme en France. Le tourisme qui lui-même est un secteur moteur de l'économie française puisqu'il représente 211 milliards d'euros, 8,5% de l'économie nationale. Alors, que représentent les parcs d'attractions dans ce domaine touristique ? Eh bien, les informations disponibles sont à la fois nombreuses et en même temps un peu datées sur le sujet. Pandémie de la Covid oblige, les parcs d'attractions ont très nettement souffert ces deux dernières années. Pour vous donner un exemple, Disneyland Paris est le premier parc d'attractions d'Europe selon Global Attraction Attendance Report, en gros l'étude qui fait référence dans le domaine des classements de parcs à thème. Eh bien, Disneyland Paris a accueilli 9 745 000 visiteurs en 2019, donc avant le Covid, et seulement 2 620 000 en 2020, soit une baisse drastique de 73,1%. Des chiffres qui donnent un peu le tournis. Pour ce qui est du poids économique des parcs d'attractions, on peut déjà noter que, selon Challenge en 2016, ce marché des parcs de loisirs générait près de 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en attirant 40 millions de visiteurs chaque année. 5 parcs de loisirs concentrent à eux seuls plus de 60% des flux de visiteurs, le parc Disneyland Paris, le parc Walt Disney Studios, le Puy du Fou, le parc Astérix et le Futuroscope. Mais il ne faut pas oublier les autres, car selon les chiffres de l'INSEE, il y avait en 2019, donc toujours avant le Covid, 4753 entreprises dans le secteur. Et cela représente aussi un sacré paquet d'emplois pour voir. Le journal de France 2 relatait récemment la peine du Puy du Fou à recruter. Sur les 2500 postes saisonniers à pourvoir, 1000 n'avaient pas encore trouvé preneur fin février. Tout cela pour accueillir les 2,3 millions de visiteurs prévus en 2022. Et pour l'avenir, au cœur des stratégies commerciales du secteur, le développement de la clientèle professionnelle, il offre un potentiel de croissance et de diversification sur lequel misent aussi bien les parcs d'attractions que les structures d'activité à l'intérieur et à l'extérieur. Car oui, là où les particuliers n'ont plus forcément les moyens de se payer un voyage dans un parc d'attractions, les sociétés dépensent des fortunes en avantages en nature, donc dans des cadeaux pour leurs salariés. Mais il ne faut pas non plus oublier la clientèle étrangère, même si les Chinois ont encore quelques difficultés à voyager, qui effectivement se rendent beaucoup en France. Doit-on rappeler que notre pays, qui a à peu près tous les paysages et toutes les températures, attire chaque année, donc avant le Covid évidemment, près de 90 millions de personnes, pour un chiffre d'affaires et une dynamicité sur l'économie non négligeable. Alors pour tout le bonheur qu'il représente, pour le fun, vive les parcs d'attractions, vive l'économie et vive la politique.
Merci Ronan. Que seraient les parcs d'attractions sans la musique ? Beaucoup d'artistes et de chanteurs s'en sont inspirés. Sauriez-vous reconnaître ces chansons ? C'est l'heure de jouer au quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Quiz. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu.
Je vais me planter sur un truc.
Mais
Et puisqu'on fête les parcs d'attractions et donc aussi les 30 ans de Disneyland, je vous propose quelques musiques de parcs d'attractions. Et cette fois, c'est à moi de faire les présentations, pas besoin de deviner. On commence par une première musique.
Alors là, je ne sais pas.
Rassure-toi, il n'y a pas besoin de deviner. Alors, c'est un titre qui s'appelle Un monde qui s'illumine. C'est d'ailleurs l'hymne de ce 30e anniversaire de Disneyland.
Ah. Ah.
Une chanson interprétée par Héloïse et enregistrée dans les studios d'Abbey Road, à Londres. Donc, c'est un peu une chanson qui est un peu dans la même veine que Libéré, délivré, mais en un peu plus punchy, j'ai
envie
de dire.
Voilà, en un peu plus,
plus dynamique, quoi.
Absolument. On reste dans l'univers Disney avec une seconde musique. Alors, c'est une chanson qui s'intitule Make Some Magic. Alors, c'est un hymne inspiré de Sunny Bunny Land. Et c'est une chanson qui a été écrite pour la réouverture de Disneyland Paris. Car on l'a un peu oublié, mais le parc avait été fermé pendant de nombreux mois.
Oui, parce qu'ils avaient fait des travaux à un moment, pendant un certain temps, effectivement.
Mais aussi, c'était fermé aussi au public en raison de ce que l'on sait, quoi, la pandémie de Covid.
Malheureusement.
Alors, c'est une chanson composée par Scott Erickson et jouée régulièrement dans le parc de Disneyland. D'ailleurs, la version originale a déjà été interprétée à Tokyo, au Disneyland de Tokyo. Il y a longtemps.
J'ai été.
Ah oui.
Ça s'appelle Disney She.
Ah d'accord. Ça doit être très beau, j'imagine.
She, c'est S-E-A, parce que les Japonais prononcent ça comme ça.
T'as dû passer un bon moment, Didi, j'imagine. Oh là là.
Bah écoute, j'ai l'impression que moi, Tokyo est Disneyland, en fait.
Ah d'accord. Ah ouais, bah tu vois, comme
que les gens sont tellement différents.
Bah ouais, j'imagine,
propres,
c'est pas la même façon de vivre.
Tu laisses ton téléphone par terre, tu reviens deux jours après, tu le retrouves.
Non, mais ça, c'est bien.
Alors qu'à Paris, j'ai le téléphone dans la poche. Deux minutes après, je l'ai plus.
Ah, oui. C'est vrai que c'est pas incomparable. Oh là là.
Donc voilà.
Et on quitte Disneyland pour un autre univers.
Ça fait peur. Oh, c'est une micro de musique.
Alors, à votre avis, il s'agit de. Alors, juste une petite devinette, il s'agit de quel parc cette fois? C'est la musique de quel parc à votre avis?
Astérix?
Oui!
Astérix! Ouais, ça fait Celte.
Ouais, exactement, c'est vrai. Ouais, un peu la musique irlandaise, effectivement, ça ressemble.
Ah ouais, mais j'ai des mauvais souvenirs, parce que là-bas, on a cru que je jouais Obélix. J'étais très déçu.
Ah ouais?
Mais non, mais j'avais même pas le costume.
Ah ouais.
C'est ça le problème.
Ah bon?
J'ai même pas
mais
le costume,
c'est la couleur des cheveux.
Ah ouais, peut-être.
Ouais. J'ai même pas un truc rayé. On m'a dit vous êtes Obélix.
Ah bon? Ah ouais, ça a pas dû te faire plaisir, Didier.
Bah non.
Bah oui, quand même.
Ah mais non.
C'est pas.
En plus, je suis pas roux.
Bah oui, pourquoi t'as dit
pas
ça? C'est bizarre.
J'ai pas de moustache, j'ai pas de rayure.
Bah ouais, c'est étonnant, c'est bizarre.
Je comprends pas.
Oh Didier.
Alors cette musique, c'est le village gaulois du parc Astérix. Elle est intitulée Song of the Street Silky.
Ah.
Et on termine avec un rappeur. Alors ce rappeur, c'est 50 Cent.
Ah.
Avec cette chanson intitulée Amusement Park. C'est le second, une chanson extraite de l'album de 50 Cent intitulé Curtis, sorti en 2007. Une manière de clôturer ce thème des parcs d'attractions.
Et je vais te dire aussi, Kevin a été venu l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, Didier, samedi. Vous connaissez Douchka 1, 2, 3.
Oui.
Et ben, elle était venue,
oui.
Malheureusement, elle était séparée de son père des enfants, mais elle est super sympa, elle était venue et elle avait fait, quand elle était jeune, une émission sur TF1.
Bah, je m'étais dit, tiens, je vais inviter Douchka.
Ah oui. J'avais bien la voir, hein. Elle était venue vraiment un samedi, je me rappelle, il y avait une émission au théâtre, Alexandre et Alain Blondin ont dit bonjour. Douchka, je sais pas si nous entend, on lui dit un grand bonjour. Et vraiment elle est super, 1, 2, 3, Donald et moi. Et vraiment on avait passé un moment, même on a intervenu, tu te rappelles Didier? Et on lui dit bonjour Douchka, je sais pas si tu te rappelles de nous. Amitié et une belle chose.
Et d'ailleurs en cette émission spéciale parc d'attraction, j'ai pensé aussi à une autre invitée qui était venue il y a quelques temps dans l'émission, c'est Singrid Campion.
Et ben Michael Jackson, il paraît qu'il allait à Euro Disneyland et il s'amusait, il paraît que c'est quelqu'un de très timide et très curieux. Et des fois il venait à Paris, il achetait des tableaux.
Et parfois il s'amusait avec les petits enfants.
Ah ben non mais c'est vrai.
Bah, c'est paraît, mignon.
On louait Euro Disneyland pour Michael Jackson, lui, un petit plusieurs. Et c'est vrai, hein, c'est véridique quoi, pour les fans de Michael.
Merci Kevin, tu nous as donné envie d'écouter un titre.
Ah oui.
Eh bien je vous propose d'écouter Le Monde qui s'illumine, hymne des 30 ans de Disneyland.
Paris?
Oui.
Tu t'appelles Paris?
Look to the sky.
It's looking bright, go on, let it out.
qui s'illumine, hymne des 30 ans de Disneyland Paris.
Et d'autres artistes, hein, comme je le disais, ont été inspirés par les parcs d'attractions, leur univers, leurs personnages. Wynne's Daughter nous présente un peintre américain qui met en scène certains personnages de Disney dans de sublimes tableaux. Un Américain sur 20 aurait un tableau chez lui, d'après The Guardian. Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Wynne's Daughter vous fait découvrir ses artistes en fonction du thème de l'émission.
C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délecterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
Wynne's Daughter.
Wynne's Daughter.
Non, Wynne's Daughter.
Wynne's Daughter.
Pas Daughter, Wynne's Daughter.
Wynne's Daughter.
C'est plus en plus court.
Je sais pas comment.
Alors,
j'ai fait.
Ça veut dire là
Je sais pas.
Fille du vent.
Ah, la fille du vent. Oh oui, la fille du vent.
Et pas la fille au vent.
Non, non, bah non, parce que... elle va pas être contente, sinon elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente. Hein.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes partis pour une heure de rêverie, de magie, d'amusement. On y va par plaisir, avec ou sans les enfants, ou pour faire plaisir à ses enfants. Les parcs d'attractions existent depuis le 10e siècle, comme la Foire du Trône à Paris. Et puis les parcs se sont développés en Europe de l'Ouest, en Asie, le plus ancien serait britannique et d'autres affirment qu'il est au Danemark. Nous resterons centrés sur les parcs d'attractions s'étant développés autour de caractères de dessins animés mondialement connus comme celui de Disney. Je ne vous parlerai pas de Pluto et Mickey, ah si je viens de le faire. En tout cas, ces personnages comme tant d'autres ont fortement inspiré l'artiste peintre américain William Thomas Kincaid III, dit Thomas Kincaid. Voilà un nom sonorité princière pour continuer à danser et chanter avec Cendrillon ou la Belle au bois dormant, jusqu'à Pocahontas ou la Reine des Neiges. Thomas est né en 1958 à Sacramento, aussi connu comme The Painter of Light, le peintre de la lumière. Il s'est défini ainsi et a su, comme Disney, développer un marketing efficace, la réalisation d'une véritable petite entreprise quant à la commercialisation de ses œuvres et de leur reproduction. Ainsi, il reste proche de toute personne sensible à la peinture et contribue à populariser cet art et partager avec les plus grands nombres. Il aime à peindre des scènes pastorales, réalistes et bibliques aussi. des tonalités pastel et un travail de la lumière où se reflète avant tout sa sensibilité, sa manière d'observer son environnement et les sujets qui le touchent, tel un soul later photographe, mais dans un tout autre style. Et parmi les sujets qui l'inspirent, l'univers Disney a toute sa place. Il en reproduira plusieurs scènes, tel un photographe de plateau version dessin animé. Un critique d'art dira un jour que les toiles de Thomas sont kitsch. Alors, c'est un kitsch qui ne manque pas de panache et saura vous toucher. Des milliers de personnes ont sûrement une reproduction de Thomas Kinkade sans le savoir. Il est une figure de son époque et de l'art populaire américain. Je vous invite à visiter le site web. Pour vous rendre spécifiquement sur la page dédiée aux œuvres inspirées de Disney, thomaskinkade.com/art-genre/disney-images. Et bien sûr, vous retrouverez les liens sur le site de bigbangstation.fr. Thomas est décédé en 2012. Il nous lègue son univers, ses toiles et son âme de businessman philanthrope. Oui, ce n'est pas incompatible. Thomas a de son vivant été présent pour plusieurs associations caritatives. Merci de le faire vivre et de continuer à propager le rêve, la magie, chère à ces messieurs Walt Disney et Thomas Kinkade. Bonne soirée à tous sur Big Bang Station. À samedi prochain.
Merci, Wins. Comme dirait Petit Manu, la fille au vent.
Non, la fille du vent.
Du vent.
Du vent. Et son véritable prénom, c'est...
Non, mais tu disais la fille au vent.
Non, j'ai jamais dit ça. La fille du vent.
Alors, elle t'a foutu un vent, mais c'était pas autre chose.
Pas du tout. Une fois, mes concerts musicaux, elle est venue me voir, et j'ai pu la voir, et je lui ai demandé, mais pourquoi t'appelles la fille du vent ? Elle m'a pas répondu.
Mais t'as foutu un vent.
C'est ce que je te dis. C'est vrai. Mais elle est super sympa, Céline.
T'as répondu. Parce que t'as
ah ouais, elle m'a répondu. Elle s'attendait pas, je lui pose cette question. Mais Céline.
Du coup, elle est partie.
Non, après, elle est discrète. Elle recherche la discrétion. Céline, on te salue amicalement des studios. Très beau bonbon qu'on a vécu. Hein.
Et on reste dans l'univers de Walt Disney qui a pendant très longtemps, des années 40 aux années 80, eu le monopole sur le marché du cinéma pour jeunes publics. Alice au Pays des Merveilles, Bambi, La Petite Sirène, sans oublier le tout premier long métrage d'animation sorti en 1937.
Fantasia.
Non, avant.
C'est pas Pinocchio.
Alors, c'est pas Blanche-Neige. Presque, c'est Blanche-Neige.
Ah oui, c'est Blanche-Neige.
Et les Sept Nains. Et le deuxième, en 1940, était...
Pinocchio.
Pinocchio, voilà. Dans les années 90, une nouvelle technologie prend place dans le domaine de l'animation, les images de synthèse. Nathalie revient sur la collaboration devenue obligatoire de Disney avec un géant moderne, Pixar. Un petit ciné ?
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
C'est l'heure de la chronique cinéma de Nathalie.
Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami.
Ah ben ça va alors.
Pinocchio est le premier Disney à être projeté au Grand Rex à Paris le 22 mai 1946. Comme tu le disais tout à l'heure, Didier, Disney a eu son heure de gloire, mais alors que les films en images de synthèse voient le jour dans les années 90, Walt Disney ne s'inscrit pas dans cette nouvelle tendance et glisse dangereusement dans un gouffre financier qui emporte avec lui tous les dessins animés qui ont fait sa réputation. Pendant cette décennie, la firme sort plusieurs longs métrages à succès mitigé, Bambi 2, La Petite Sirène 2, des suites et des suites. Ces films perdent en qualité de contenu, mais surtout ils n'évoluent pas en termes de qualité graphique, ce qui lui est très préjudiciable.
Ah, moi j'ai... Il n'y a rien de mieux que Blanche-Neige, non ?
Ah bah oui,
ah bah oui, moi, mais parce que t'es nostalgique, évidemment. Ah oui, aussi, mais tu sais que la société évolue en permanence et on se doit de suivre l'évolution.
Mais est-ce que les jeunes, en regardant par exemple Blanche-Neige, vont peut-être autant apprécier que les dessins animés en images de synthèse, sinon plus, non ?
Bah évidemment. Bah, moi je pense que c'est important de toute façon de montrer tous ces dessins animés et puis de...
Tes filles l'ont vu ou pas, Blanche-Neige ?
Ah oui, ouais, ouais,
et
ouais.
Alors, elles ont
ah oui, oui, moi mes filles, elles ont vu quasiment... Bah,
elles suivent.
Elles ont baigné dans l'univers de Disney à la maison, c'est vrai qu'on a beaucoup regardé. Mais après, c'est vrai qu'elles, elles ont aimé les dessins animés qui sortaient à leur époque. Tu vois, par exemple, Le Roi Lion, il a dû passer 650 fois à la télé. J'allais dire une bêtise sur un magnétoscope, mais non, pardon, ça n'existait pas quand elle serait. C'est un DVD.
On peut pas savoir. Hein, c'est
sans notre Betacam,
Non, oui, Le Roi Lion, Monstre et compagnie, donc vraiment des dessins animés d'actualité plus quoi. C'est vrai que après, Les 101 Dalmatiens, par exemple, qui est un peu plus ancien, elles ont beaucoup aimé.
Mais ça a été revisité aussi, c'est pareil. On a eu beaucoup de versions, comme Blanche-Neige. On a eu des films sur Blanche-Neige. Oui. Donc on a sans arrêt l'histoire quand même qui revient. Mais bon, alors tout ça pour revenir en 2006. Disney va donc faire l'acquisition de Pixar Animation Studio, dirigé à l'époque par Steve Jobs, dans le but de remonter la pente et de suivre la nouvelle tendance des images de synthèse qui apparaît aujourd'hui comme le nouveau support des dessins animés. L'alliance entre les deux entreprises n'est en fait que la consécration de plusieurs années de collaboration et a ainsi très directement participé à de nombreux succès du box-office tels que Toy Story 1, Toy Story 2, vous connaissez ça, Toy Story ?
Oui.
C'est beaucoup plus récent. Hein. Et surtout, Le Monde de Nemo, le film d'animation qui a réalisé dans son domaine le plus grand nombre d'entrées à cette époque. On s'apercevra que les films d'animation suite à cette collaboration ont eu d'énormes succès. En creusant un peu, on voit des clins d'œil dans chaque film. On peut voir Boo dans Monstres et compagnie donner un poisson Nemo à Sully, par exemple, et ce dans beaucoup de dessins animés. Autre information, ces célèbres dessins animés changent selon le pays où ils sont regardés. Dans Toy Story, par exemple, on voit le décor changer derrière Buzz l'éclair. Le drapeau américain pour les États-Unis et le globe pour le reste du monde. Dans Vice et Versa, Riley refuse de manger du brocoli pour les Européens, mais pour les téléspectateurs japonais, ça n'a aucun sens puisque les enfants adorent les brocolis. Du coup, les brocolis ont été remplacés par des poivrons verts. Mais la Walt Disney Company ne s'arrête pas là puisqu'en 2009, elle annonçait le rachat de Marvel.
Ah oui.
La maison de Mickey s'est offert des licences telles que Iron Man, Hulk, Thor, Captain America ou encore Black Panther avec le regretté Chadwick Boseman que j'ai adoré. Bref, depuis une trentaine d'années, on a pu voir des dessins animés que nous connaissons tous. La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Tarzan, Lilo et Stitch, Réponse et La Reine des Neiges, dont on connaît la chanson qui nous hante encore.
Que Petit Manu va chanter non, en live.
Non mais je crois qu'il y a une artiste, Nadia Rose, qui chante, qui a repris cette chanson. Et...
Libérée, délivrée en version,
exactement.
En version différente.
Voilà, hein. Complètement. Je préfère que ça soit Nadia Rose qui chante, mais elle chante très bien.
Ouais, mais elle n'est pas là.
Non, mais faut savoir. Moi, j'étais invité à une émission de télévision et je crois qu'elle est maman, elle est super sympa. Faut le savoir.
Quand et même. Comme vous avez tous grandi et que vous ne regardez peut-être plus de dessins animés, je vous ai fait ma sélection des films plus récents à voir au cas où vous souhaitez retourner en enfance. Mon coup de cœur, c'est Coco. Il est sorti en 2017. Il a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson originale. La musique est interdite au sein de la famille de Miguel Rivera et lui rêve de devenir un guitariste aussi talentueux que son idole Ernesto de la Cruz.
C'est espagnol, j'imagine.
Il va se retrouver propulsé au pays des morts. C'est magique, la musique vous transporte et Coco aussi. La chanson « Ne m'oublie pas » me fait toujours le même effet, je verse ma petite larme parce que, oui, je l'ai vue une dizaine de fois. Ensuite, c'est Luca. Luca, sorti en 2021, donc c'est très très récent. C'est une adorable histoire qui se passe en Italie. Deux amis vont tout faire pour gagner un Vespa où ils se voient déjà parcourir le monde ensemble. Sauf que dès qu'ils prennent l'eau, ils se transforment en petits monstres marins. On rit beaucoup, les personnages sont très attachants et émouvants. Santa Mozzarella ou Santa Gorgonzola. Alors c'est quelle origine, petit Manu ?
Bah je pense que c'est toujours espagnol.
Italie.
Italien. La comédie d'arte.
Italien. La petite fille qu'il rencontre va faire de ce trio les grands gagnants de ce village au bord de l'eau. Et pour finir, j'ai eu la chance de voir au cinéma Encanto, fin décembre. Vous voyez ce que c'est Encanto ?
Oui, mais je ne l'ai pas vu.
Encanto, la fantastique famille Madrigal est le 60e classique d'animation des Walt Disney Animation Studios. Chez les Madrigal, tout le monde est magique, enfin presque. La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L'Encanto a doté chacun des enfants de la famille d'une faculté magique allant d'une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabelle n'a reçu aucun don particulier. Voilà la musique qui a détrôné Libéré, délivré, puisque c'est Ne parlons pas de Bruno, non, non. Vous connaissez pas ?
Non.
Mais non, mais c'est pas vrai.
Mais
je le savais.
Mais non, mais c'est bien. T'as un talent.
Elle cartonne dans toutes les bouches. Et d'ailleurs, la voix française du fameux Bruno dans ce film, c'est José Garcia.
Comédien qui est le super collègue d'Antoine Decaune, on l'a découvert sur Canal Plus.
C'est ça.
Il était chauffeur de salle au début. Quoi.
Exactement, petit Manu. Vous le voyez, les parcs d'attractions m'ont fait faire beaucoup de looping pour arriver jusqu'à cette chronique.
Oh.
Mais je vous promets que vous passerez de bons moments sagement assis devant votre écran.
Et tu parles de Coco, j'ai envie de dire, Marie, Taloulou Coco. C'est aucun rapport. Je passais un.
Sans transition.
Mais, voilà. Mais c'est pas mal. Mais
le nombre de phrases hors sujet de Petit Manu dans chaque émission, oui, c'est.
Mais j'ai dit ça avec respect quand même.
Mais oui.
C'est un peu plus bon,
quand tu faisais des dissertations à l'école, on disait pas hors sujet. Rien à voir.
Non, ça, c'est venu après.
Mais... HS. Ah, c'était ça, HS.
Ah oui, non, mais vous savez qu'une fois, quand j'ai rencontré Petit Manu il y a 20 ans à la radio, qui me faisait des chroniques, alors une fois, il m'a fait une chronique sur les fourmis.
Ah ouais, mais c'est
il m'a dit, mais c'est très important les fourmis. Je dis d'accord, mais c'est pas l'objet de ta chronique.
Non, mais c'est vrai, parce que c'était la
mais
nature.
Mais c'est important de le dire.
C'est important, la
c'est important de savoir. Ah bah,
tu vois, t'as dit,
ça, voilà. Ce sont des phrases de Petit Manu.
T'as une très bonne
sache
de mais c'est. C'est curieux, bah merci Nathalie.
En tout cas, merci Nathalie. On va terminer cette émission par un peu de réflexion. Un parc d'attractions consacré à la guerre de sécession sert de cadre à une peinture drôlatique d'une Amérique profonde délaissée, n'assurant sa survie que la débrouille. George Sanders nous montre une société américaine en déliquescence où seul ce parc paraît pouvoir maintenir la vie. Alors, quelle débrouille vont-ils trouver pour maintenir à flot le Civil War Land et garder les riches comme leur limousine? La réponse avec Vincent. De la culture dans Big Bang.
C'est cela, oui, oui, oui.
Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. Le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours.
Ah, c'est pas mal, quoi. Ah.
Salut Didier, chers collègues, Big Bangienne, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien. En ce jour de farce macabre, le dernier rapport du GIEC nous intéressant moins que le pire des faits divers, nous parlons de parcs d'attractions. Ces palais à la gloire de l'illusion, cachant aux enfants la triste réalité de notre monde. Car oui, chères petites, chers petits, les fées, les lutins et autres fantômes sont comme les ardents enlacements d'Edith Piaf. Ou les gâteaux rigolos aux soirées étudiantes. Ils nous font voir la vie en rose. Mais est-ce un sauvetage ou un moyen de repousser le précipice? Lorsque Didier m'a parlé du thème de l'émission, je dois avouer être resté quelques minutes abasourdi. Quoi? Moi, qui rame depuis près de 2 ans à te parler, cher auditeur, de génies comme Pascal, Kierkegaard, Baudrillard et autres Platon, je me retrouverai à parler de parcs d'attractions. Mais rassure-toi mon ami, mes chevilles ont depuis dégonflé, autant que mon ego d'intello du dimanche. Tel Étienne Lantier, de Germinal, j'ai descendu sous terre dans le seul monde qui ne déçoit jamais. Celui de la simplicité apparente des mots où, armé de sa seule pioche, on trouve la faille vers la compréhension du réel. Dans son premier recueil de nouvelles, publié en 1996, « Grandeur et décadence d'un parc d'attractions », George Sanders nous propose, dans la première et éponyme nouvelle, une vision, dissimulée dans un habile scénario de sauvetage d'un parc d'attractions. Une image cruelle et ironique d'une Amérique en proie, 130 ans plus tard, aux affres de la guerre raciale. La dépolitisation et donc la relativisation de la guerre de sécession sont orchestrées dans le dit parc et servent à l'auteur d'ombre pour mettre en lumière la criante actualité de cette histoire, élevée au rang de mythe fondateur. George Sanders nous offre une scène où l'histoire se poursuit dans le présent. Les affrontements raciaux se déroulant au sein même du parc, entre guerre des gangs et crimes absurdes. Le roman national américain, lissé dans bien des attractions, est brisé, s'il le fallait encore, par la dernière scène du drame, un énième crime raciste contre des ornithologues, dont la seule faute fut d'être des chicanos. Les employés du parc participent à leur corps défendant à cette lutte des races, menée par un justicier improvisé, embauché par le propriétaire des lieux. Au milieu de ce combat, une figure reste contre vents et marées, le narrateur, maintenant à flot un navire à la dérive. L'homme n'est pas mauvais, mais emporté par la naïveté de tout sacrifier pour sa famille déjà déchirée, il se mêle à la criminalité, cachant les cadavres, s'obstinant contre l'évidence. Ce livre, enfin, et c'est à noter pour les années 90, dépeint l'abandon de l'Amérique profonde. Par le capitalisme, les investisseurs fuyant la région, et l'État, avec une police, complice du crime et des affrontements raciaux. Les parcs d'attractions sont donc d'agréables illusions, offrant dans leurs abords une vision crue du réel. Alors, cher auditeur, quand tu t'y promèneras, regarde les coins échappant à leur mise en scène. Ils sont comme les palais côtoyant les bidonvilles. Alors, vive les parcs d'attractions et la pensée critique. Prends bien soin de toi, mon ami, et je te dis à très vite.
Merci Vincent. Et Big Bang
Station.
J'ai fini.
On fête aujourd'hui les Gautier. Messieurs, jeunes hommes, Gautier. Bonne fête. Buenas fiestas. Je reprends en espagnol, comme une chère amie, Nathalie.
Et si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Le dimanche à 16h sur Precious Radio. Le lundi à 19h sur Fréquence Magique. Le mardi à 21h sur Radio Ems. Le jeudi à 16h sur Radio Vintage. À 18h sur Jupiter FM. Le vendredi à 20h sur Onde Bleue. Le samedi à 19h sur RLM en FM à Bastia et sa région. Et à 20h sur Radio Saint-Dié. Sur Guimi Radio et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang
Station.fr
dès dimanche. Et si je n'ai pas cité votre radio que vous nous rediffusez, écrivez-nous tout simplement.
Ah bah, tout à fait. On va bien vous renseigner. Ça va de soi.
Apparemment.
Évidemment. 5 sur 5. Comme une lettre envoyée à la poste, mon cher Didier. Sois rassuré.
On se quitte avec un proverbe, Kevin. Okay.
Et je vous cite une citation du célèbre Walt Disney. Disneyland est souvent appelé un royaume magique car il combine fantaisie et histoire, aventure et apprentissage, ainsi que toutes sortes de loisirs et d'amusements conçus pour plaire à tous.
Salut à toutes et à tous. Et la semaine prochaine, c'est une émission sur...
Sur.
Là.
Là.
La Pâque juive.
Ah ben la Pâque juive, la Pâque juive, vous saurez tout de A à Z.
Salut à toutes et à tous.
Salut. Et profitez bien, c'est important.
Okay, let's stop.